Bonjour, c'est Radio Libertaire, le matérialisme dans tous ses états, troisième et dernier volet de notre mini-série consacrée à l'esprit critique en général et puis au doute, au scepticisme et à la science. Nous avions reçu auparavant Nicolas Gauvry et puis Nick Hawkes et aujourd'hui avec Marc. Bonjour Marc.
Bonjour.
Nous recevons Florian Gouttière.
Bonjour Florian.
Florian Gouttière. Alors Florian Gouttière, on va te présenter et puis tu compléteras la présentation. Tu es journaliste scientifique, hein, c'est ça?
Tout à fait.
Et tu animes entre autres un blog sur Internet dont le nom est pour le moins curieux. C'est Curiologie. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ce blog et ce que tu... D'abord... Comment et pourquoi, qu'est-ce qui a été à l'origine, à la naissance de ce blog et puis pourquoi ce nom de Curiologie?
Alors, Curiologie, c'est un site qui est consacré, comme son nom l'indique, à la curiologie. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un mot que j'ai choisi et qui désigne l'ensemble des méthodes qui sont destinées à entretenir sa curiosité et son aimant, ainsi que l'émerveillement d'autrui. C'est aussi la discipline qui est attachée à la compréhension des choses curieuses, aux méthodes qui permettent de parvenir à cette compréhension. Et j'ai l'habitude de dire que la curiologie, c'est l'art d'être curieux à l'égard des choses qui nous semblent curieuses, mais la façon d'être curieux, c'est surtout pas n'importe comment. Alors ce blog, il est né en fait du fait que je produisais beaucoup de contenu à droite, à gauche depuis des années, et c'était le souci de réunir tout ça au même endroit. Une partie de ces sujets, moi, c'est des enquêtes que j'avais pu mener par le passé en tant que journaliste sur des phénomènes qui m'avaient intrigué, sur des... Voilà, c'est souvent un peu ce qui nous attire hein, quand on lit un journal. Ah, ce sujet m'étonne, j'ai trop envie d'en parler ce soir au bar avec les copains. Voilà, moi, je suis rentré dans le journalisme par ça, j'avais envie de raconter des belles histoires. Puis je me suis aperçu que parfois, les belles histoires que je racontais, eh bien, elles étaient moins belles si j'allais au bout des choses. Quand j'ai fait notamment un stage durant mes études au Cambodge, j'ai été amené à enquêter sur le procès des Khmers Rouges. Oui. Et en discutant avec les gens sur place, on m'expliquait que ce procès n'aurait pas lieu. Et beaucoup d'ambassadeurs... et de personnalités du monde des ONG, m'expliquaient qu'ils étaient convaincus que ce procès n'aurait pas lieu pour diverses raisons politiques. Alors, c'est des raisons très complexes. J'ai échangé avec de très nombreuses personnes autour de ce sujet. Et je suis arrivé à être convaincu de l'hypothèse, qui était une hypothèse un peu complotiste de tous mes interlocuteurs. Et les faits ont donné tort à toute cette enquête, et je suis très content de ne pas l'avoir publiée, parce qu'au dernier moment, au moment où je mettais fin à tout ce travail, qui m'avait pris à peu près 3 mois, je me suis dit, est-ce que justement je ne suis pas victime de mon désir de démarrer ma carrière par un petit Pulitzer ou quelque chose comme ça? J'ai juste repris les choses à la base, j'ai essayé de voir à quel point les faits corroboraient réellement l'idée que je me faisais de la situation. Puis voilà, j'ai un peu douché mon enthousiasme et j'ai eu raison. Donc voilà, c'est un peu cette démarche-là qui est au cœur de mon travail depuis maintenant 12 ans que je fais ce boulot. Et voilà, donc ça s'est traduit par beaucoup de productions. Et voilà, Curiologie, ça réunit un peu tout ça. J'en profite aussi sur ce site pour mettre en avant quelques outils que moi j'emploie quotidiennement. Alors, ce n'est peut-être pas les meilleurs outils, mais tout un tas d'outils qui réunissent. Je me dis, si tout le monde les utilisait, qu'on soit journaliste ou lecteur ou auditeur, eh bien, ça permettrait en fait d'avoir sur soi un détecteur de foutaise, un détecteur de foutaise qui sera intégré à notre cerveau. Donc voilà, ça demande de l'entraînement et c'est ça que je propose sur ce blog.
Il y a un aspect, sur ton blog, il y a un aspect pédagogique.
Voilà, j'essaye en tout cas.
Et puis, il y a aussi une démarche, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on note lorsqu'on lit les articles que tu mets en ligne. Il y a quand même une volonté d'interroger, de mettre en doute, de mettre en question.
J'essaye de prendre des cas très précis, des choses qui posent question à tout le monde. Pour en citer un,
bien sûr.
On dit, voilà, moi je me suis posé la question, est-ce qu'il est vrai, puisqu'on l'entend dire tout le temps, que un choc psychologique, un deuil, peut entraîner le cancer. Et, enfin, un cancer, un type de cancer quelconque. Et ben, je me suis dit, comment savoir si c'est vrai? Comment savoir si on a des raisons de croire ça? Et dès que je me pose ce type de questions, ben, je travaille, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Alors, comme je travaille dans le monde de l'information médicale, ben, il y a une partie de mon temps qui est consacrée à essayer de résoudre ces problèmes. J'interviens notamment à la télévision dans des chroniques. Donc, c'est à cette occasion que je peux mener mes enquêtes les plus abouties. Et puis voilà, parce que quand on a une idée en tête, normalement, cette idée, elle nous est arrivée un jour dans la tête, on est à la fin de toute une chaîne d'informations, mais à l'autre extrémité de la chaîne, il y a bien eu un moment où quelqu'un a eu des raisons d'affirmer, censément, il y a quelqu'un qui a eu des raisons de l'affirmer au monde et de disperser cette idée. Alors, en remontant jusqu'au bout de la chaîne, parfois on s'aperçoit que les raisons sont mauvaises, que les raisons, ce sont peut-être juste l'intuition ou l'envie d'y croire. Parfois ce sont des faits, parfois ce sont des faits vérifiés, parfois ce sont des faits un peu vérifiés, parfois ce sont des faits parfaitement vérifiés, très bien étayés. Et voilà, c'est remonter à la source de nos croyances pour voir si ce sont des idées reçues, sont toujours des idées reçues, hein, c'est des idées qu'on a reçues, mais est-ce qu'à l'autre bout, c'est une vraie connaissance qu'on nous a transmise ou quelque chose qui s'est déformé, voire même quelque chose qui était déformé directement dans la tête de l'individu, c'est une pure invention.
Et alors, quel a été le résultat de cette enquête sur le choc psychologique son imputabilité éventuelle dans le déclenchement de certains cancers
Alors, comme toujours, il y a toujours des sous-cas, etc. Mais pour la faire courte, pour tout ce qui est cancer solide, on sait aujourd'hui avec un très 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 haut niveau de certitude qu'en fait, ça n'a aucun lien. Si vous avez... l'âge à laquelle vous commencez à développer les cancers, c'est effectivement l'âge où vous avez un grand risque de perdre vos parents. Donc, la probabilité que l'on vous annonce un cancer peu de temps après qu'il y ait un décès est élevé. Mais l'inverse est vrai d'ailleurs. Hein. Quand on regarde, on pourrait dire que c'est le cancer qui provoque la mort des parents, mais votre cancer qui provoque la mort des parents, parce qu'il peut très bien être annoncé avant. Il y a plus de chances en réalité d'être avant. Donc c'est après au niveau de ces courbes de démographie. Puis il y a aussi un fait qu'il faut prendre en compte, surtout pour les cancers solides, c'est qu'ils mettent énormément de temps avant de se développer. Entre le moment où la première cellule commence à déconner, que le corps entier n'arrive pas à mobiliser, toutes les armes qu'il a à sa disposition pour limiter la croissance du cancer, au moment où on fait le diagnostic, il s'est passé généralement des années avant. Donc, quand on dit « il y a 6 mois, mon père est mort, et voilà, j'ai un cancer », le cancer, il a démarré il y a au moins 3 ans. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été étudiées, qui ont été réfutées comme ça. Alors, pour les cancers du sang, il y a très peu de chances que ça soit vrai. Mais voilà, j'avance de façon mesurée. Les données que j'ai analysées concernaient surtout les cancers solides. Donc, on pourrait extrapoler, mais il faut être très, très mesuré. Par contre, il y a un élément qui est intéressant. Ça pourrait être les cancers qui sont favorisés par des virus. On va penser à des choses comme les cytomégalovirus, des choses comme ça, des virus qui sont en lien avec...
Papillomavirus.
Voilà, des choses comme ça, qui, on sait qu'ils sont plus actifs dans certaines conditions, notamment certaines conditions de stress psychologique. Donc, comme ils peuvent créer des lésions précancéreuses, des choses comme ça, ils pourraient avoir un lien, mais voilà, basiquement, ceux qui sont derrière leurs écouteurs ou leur poste de radio, si vous avez un cancer, c'est pas de la faute à votre incapacité à affronter l'adversité ou quoi que ce soit. Ça, c'est un mythe qu'il faut absolument
Ce que tu dis là illustre bien la confusion qui est faite par un grand nombre de personnes entre la corrélation et la causalité.
Exactement.
Ce n'est pas parce que deux phénomènes sont liés dans le temps, que l'un succède à l'autre, que le premier est cause du second. Il y a juste une corrélation temporelle, mais il n'y a pas de lien de cause à effet.
Ou des phénomènes qui peuvent être cachés. On sait par contre que les gens qui ont eu une perte dans leur famille, sont préoccupés, évidemment. Il y a un choc psychologique qui est violent et ils ont tendance à se faire diagnostiquer plus tard. Ils oublient d'aller voir leur médecin ou ils disent « c'est pas grave, de toute façon, je souffre assez ». Le retard de traitement, lui, il est réel. Il est réel. Donc, on n'a pas forcément plus de cancers, mais les cancers, comme ils ont tendance à être diagnostiqués plus tard, il est plus probable qu'on meure d'un cancer après. Et bon, faut pas confondre la probabilité de mourir d'un cancer de probabilité de survenue d'un cancer.
C'est tout un travail donc de recherche d'informations, de décortiquer et de faire la part entre ce qui est établi, ce qui ne l'est pas. C'est toute cette démarche que tu mets en œuvre dans tes enquêtes. Cette démarche-là, tu la qualifies donc sur ton blog de démarche de curiosité scientifique, hein, mm-hmm. de ce que tu appelles la curiologie, c'est-à-dire d'aller interroger ce qu'on a tendance à prendre pour peut-être des évidences ou des questions qui, a priori, font un consensus comme ça, parce qu'on ne s'est pas forcément penché sur le sujet. C'est bien cela,
c'est cette idée, mais ça peut être tout un... Là, on a pris quelque chose d'assez gravissime, bien mais ça sûr. Peut être des choses beaucoup plus triviales. Hein. Oui, oui. On dit faire l'amour, c'est du sport. Bah, ça dépend comment est-ce qu'on définit le sport. Voyez, c'est quoi la définition du sport et comment est-ce qu'on va mesurer, avec quel capteur et dans quelles conditions. Alors, ça, vous pouvez imaginer que c'est une question triviale, mais qui peut être intéressante. Là, on est à l'opposé du deuil et du cancer. Ouais, ouais. Ça peut être aussi, est-ce que les peaux à moustiques existent ? Enfin, toutes ces questions banales, on a souvent des réponses très rapides à ça, mais la vraie question qui est derrière, c'est comment est-ce qu'on peut valider ces hypothèses ? Est-ce que ces hypothèses, elles ont été vraiment validées ? Testées. Comment est-ce qu'on... C'est quoi la méthode pour arriver à répondre à ces questions ? Et est-ce qu'elle a été mise en œuvre ? Et étonnamment, très 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 souvent, eh bien, ces questions, elles ont déjà été posées. Ça fait souvent 60 ans qu'on a commencé à mettre en place ces questionnements, que les erreurs dans le protocole ont été critiquées. Donc, on a beaucoup de chance, hein. On est en 2017. On a un immense corpus d'informations, d'études, parfois un peu contradictoires, ou en tout cas qui semblent être contradictoires, mais qui en réalité affinent certains points, qui ont poussé des ramifications. Des études qui ont été pas menées qu'une seule fois, mais qui ont été menées 2, 3, 10 fois. Et plus elles ont été menées, plus elles ont été corroborées, plus on est fondé à dire quelque chose. C'est fondamental, en fait. Il y a quelque chose que souvent, j'ai constaté à force de discuter avec des lecteurs, des auditeurs, qui n'est pas assez compris, c'est qu'il y a une grande différence entre l'ensemble des articles qui sont publiés dans la presse. Il y a des articles qui nous tombent tous les jours en termes d'informations scientifiques, qui nous disent « Ah, un laboratoire a découvert X, Y, un phénomène. On a découvert que boire du café était bon pour limiter la maladie d'Alzheimer. Ouais, super !» Puis après, on me dit « Oui, mais alors, ce genre d'informations, la semaine d'après, on dit le contraire. » Mais est-ce qu'on dit vraiment le contraire dans les deux ? Et puis, qu'est-ce qu'elle disait vraiment la première étude ? Elle disait que la caféine donnée à des souris de laboratoire pendant 2-3 jours va limiter la production. Finalement, ça ne parlait pas vraiment de la maladie d'Alzheimer. Et l'autre chose, ça n'a pas été mené sur des souris, mais ça a été mené sur des macaques. Ah, alors est-ce que c'est mieux ? Est-ce que c'est moins bien ? Et puis, il y a des études qui sont des réplications, c'est-à-dire qu'une première expérience a été faite, on a eu des résultats positif ou négatif, et puis on a essayé de voir si les premiers résultats étaient bons, et puis ça a été remené, et puis on a construit tout un édifice de connaissances à partir de ça, et il y a dans la presse beaucoup de choses qui sont publiées qui sont de cet ordre-là, de l'ordre de synthèse. Moi, c'est un peu le travail que je fais, justement, de mettre au jour la synthèse des connaissances. Quand on dit que... C'est quelque chose qu'on voit souvent. Est-ce que l'aspirine pourrait prendre un peu d'aspirine chaque jour, pourrait limiter les cancers ? Il y a des papiers qui sortent régulièrement, tous les 6 mois, qui vont dans un sens, qui vont dans l'autre. Ça dépend du cancer, ça dépend de ceci. On a toujours l'impression qu'on redécouvre la poudre. Mais en fait, non, ça se place toujours dans tout un ensemble. Et si on remet l'information dans le contexte, on s'aperçoit que soit l'information valide ce qu'on sait, soit au contraire est totalement dissonante. Et c'est là où la personne qui normalement a cette information en main, le journaliste, devrait se dire « Ah mais c'est étonnant, là on a une information qui dit tout le contraire de tout ce qu'on sait jusqu'à présent. Pourquoi ?» Et il y a des réponses à ça. Il y a des réponses qui sont très intéressantes. Le lecteur, il doit essayer de détecter est-ce que le journaliste qui lui apporte cette information, il s'est posé cette question. Est-ce qu'il s'est dit dans quel écosystème cette nouvelle apparaît ? Est-ce qu'il remet dans le contexte des connaissances ? Est-ce qu'il a vraiment fait ce travail de recherche ? Ou est-ce que cette information n'appartient à aucun écosystème ? Et dans ce cas-là, comme c'est une information isolée, quelque chose de totalement anecdotique, il est peut-être possible que l'information initiale, la découverte, eh bien, elle ne soit pas si solide que ça. On a l'impression que la recherche, dès qu'elle produit quelque chose, elle apporte des faits. Ça ne marche pas comme ça.
C'est ce que les scientifiques appellent les cohérences internes, cohérences externes. Lorsqu'un nouvel élément apparaît, il faut savoir s'il est cohérent avec l'état des connaissances actuelles ou si c'est quelque chose de complètement incohérent qui remettrait en question. On se rappelle de la mémoire de l'eau de Jacques Benveniste il y a un peu plus d'une trentaine d'années avec cette soi-disant découverte de la mémoire de l'eau parue dans Nature, quand même une grande publication quand même. Il a fallu quand même prouver que ça avait été une escroquerie.
Alors, vous parlez d'une publication dans une grande revue. Il y a 2 ou 3 ans, le temps passe si vite, je ne sais plus, il y a une publication dans une grande revue, c'était Science ou Nature, je ne sais plus, qui annonçait qu'on avait réussi à fabriquer donc des cellules souches. Les cellules souches sont des cellules qui peuvent se différencier dans n'importe quelle autre cellule. Alors, on parle de cellules souches induites lorsqu'on part d'une cellule, par exemple une cellule de votre peau, et qu'on la fait régresser à un état de cellule souche qui pourrait devenir après une cellule de foie, une cellule de ce que vous voulez. Et il y a une chercheuse, toute une équipe de chercheurs qui avait annoncé qu'ils étaient parvenus à fabriquer des cellules souches de façon extrêmement économique, en rajoutant un peu d'acide dans les pipettes et en mettant un peu de pression. Eh bien, ça, au fond, ça semblait étonnant, ça semblait surprenant, mais beaucoup de gens se sont emballés. Et j'ai envie de vous dire, moi le premier, j'étais épaté, parce que je me suis dit, mais pourquoi pas, voilà, on était dans quelque chose qui, finalement, avait une forte... Ça sonnait plausible. Sauf que j'ai eu la présence d'esprit de dire, si ces travaux venaient à être répliqués, eh bien, ce serait une excellente nouvelle. Et cette phrase-là, il faudrait qu'elle soit écrite partout. Ça devrait être automatique. Oui. Quand on allume son ordinateur, ça devrait automatiquement graver ça presque dans l'écran. Et puis, cette phrase-là, elle est extrêmement importante parce qu'on s'est vite aperçu en fait que il y avait eu des petites fraudes, pour la faire courte, et que beaucoup de gens ont essayé de faire et aucun laboratoire n'a pu refaire la même chose. Donc, l'information initiale, elle n'était pas fausse. Des chercheurs ont annoncé que ce phénomène a été constaté dans leur labo. L'info, c'est qu'ils ont annoncé. Ce n'est pas que le phénomène a eu lieu dans leur labo, oui. C'est qu'ils affirment que ce phénomène a eu lieu. Nous, on est en France, d'autres sont aux États-Unis, etc. On n'est pas dans ce laboratoire au Japon. On n'est pas là pour vérifier. Alors, on devrait idéalement aller vérifier avant de relayer, mais on se dit qu'avec tous les systèmes de vérification et que les personnes qui sont censées avoir relu cet article avant, ils ont jugé que c'était plausible, cohérent, effectivement, tout ce que vous avez dit. Donc, voilà, le journaliste... Il est très humble et il doit dire, voilà ce qu'on nous annonce. Mais prendre cette précaution en disant, attendez, il y a beaucoup d'informations qui sont annoncées, qui ne sont pas reproduites. Alors, il faut savoir. Mon dada, ce n'est pas le cancer, mais j'ai travaillé là-dessus il n'y a pas si longtemps, que quand on essaye de reproduire des expériences en cancérologie, des expériences initiales, des expériences menées sur des souris, on a un taux de réplication, si on annonce que l'expérience est positive et qu'on publie... qu'on a un résultat positif, il se passe quelque chose, on constate qu'un phénomène est arrivé, eh bien, on a un taux de non-réplication, c'est-à-dire qu'on trouve un résultat inverse ou bien moins impressionnant, qui est extrêmement élevé. Alors, ce sont des estimations qui ont été menées et qui ont été rendues publiques par des labos pharmaceutiques et qui sont corroborées par des choses indépendantes, c'est que ce taux, il est voisin, on va dire, il y a... Alors, c'est à la grosse louche. Il y a peut-être une très grosse marge d'erreur dans ce que je donne, mais il y a 7 publications qui sont annoncées comme positives sur 10 en cancérologie. Si on la réplique, eh ben, on trouvera un autre résultat. Cet autre résultat, donc, qui sera un résultat négatif, eh bien, si on l'avait eu au début, on aurait conclu que ça ne servait à rien d'aller plus loin et qu'on pouvait passer à autre chose. Si les labos pharmaceutiques en parlent, c'est pas pour le plaisir de dire on est naze. C'est justement pour dire, attendez, c'est scandaleux, nous on dépense des milliards à essayer d'avancer dans la recherche sur des bases complètement moisies. Alors qu'est-ce qui se passe? Le journaliste, ça veut dire que 7 études sur 10 auxquelles il est confronté, s'il relayait tout sur ce thème-là, alors en psychologie, c'est pas mieux.
C'est vrai pour tous les domaines.
C'est vrai pour tous les domaines. Ouais. Donc le journaliste devrait se dire, il y a pour beaucoup de domaines, effectivement, peut-être que si on va dans des sciences physiques...
Il y a des facteurs qui font que ça peut être moins important dans certains autres domaines.
Mais c'est important que tu le soulignes.
Oui, là, on parle de
là, il y a au moins 2 facteurs dans la situation que tu décris que je pourrais identifié, mais je te laisse poursuivre.
Non, mais déjà, on parle de vivant, et puis il y a plein de choses comme ça.
Je trouve que le cancer, il y a un problème épistémologique, c'est qu'il y a des théories concurrentes du cancer et qu'elles déterminent donc des protocoles expérimentaux et donc des résultats. Ça dépend dans quel cadre théorique on se place. Et par ailleurs, c'est un phénomène complexe. Et donc, il n'est pas étonnant que des protocoles qui se voudraient identiques ne le soient en fait pas, parce que les détails, comme dit l'autre, le diable se cache dans les détails, et que la reproductibilité ne soit pas intégrale, et que ceci joue aussi sur les résultats.
Alors, c'est tout à fait vrai, d'ailleurs. Voilà,
en physique, dans un domaine de la physique, etc., c'est sans doute moins
Alors, pour répondre à ce point, il y a une initiative qui s'appelle Reproducibility Project, avec mon super accent, c'est magnifique, qui a été menée, c'est une tentative de reproduire justement à l'identique des protocoles de recherche fondamentale en cancérologie, en biologie cellulaire qui touche au cancer. Et l'initiative des chercheurs, c'est de rentrer en contact avec les gens qui ont mené cette étude pour essayer de reproduire au plus près. Alors, c'est vraiment la température de la pièce. Enfin, ça va très, très loin dans la tentative de précision.
La façon dont les cobayes étaient nourris, exposés à la lumière.
Voilà, l'objectif, c'est d'éliminer tout ça parce que voilà, il y a une conscience très forte de cette variabilité. Et voilà, les premiers résultats qui sont parus en février ne sont pas plus encourageants que les premiers.
Donc, sans doute, justement, parce qu'on est en train de basculer d'un paradigme à l'autre où on a une conception d'une variabilité intrinsèque, non contrôlable, contrôlable au sens du contrôle expérimental,
tout
au
fait.
Sens du protocole, et le cancer est donc étant une maladie génético-tissulaire, etc. On n'en sait pas. On ne sait pas exactement où ça se situe et quel est le bon niveau d'observation, et que rien que ça encrasse, si je puis dire, la reproductibilité, j'allais dire le déterminisme des protocoles expérimentaux, et que ça joue dans cette variabilité des résultats, quand bien même on tenterait une homogénéisation la plus parfaite possible des conditions d'expérimentation. Et je pense que d'un point de vue épistémologique, c'est extrêmement important. Et je ne veux pas m'étaler là-dessus, mais c'est important que le public qui n'est pas dans les labos, qui n'a pas accès, soit de plus en plus conscient qu'en science, pendant des décennies, on peut dire quelque chose qui est plausible, qui n'est pas de l'escroquerie intellectuelle, qui n'est pas de la manipulation, etc., et qui apporte des résultats. Néanmoins, à un moment, à une époque donnée de l'histoire des sciences, il faut penser autrement. Alors, et quand on est dans des points de bascule comme à notre époque, ça rajoute sans doute de la difficulté pour le grand public de comprendre le fonctionnement fin de la science, qui est parfois dans des oscillations qui peuvent être très troublantes.
Alors parfois, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites, et je suis globalement tout à fait d'accord. On se vutoie, hein. C'est pas grave. C'est comme avec des beaux-parents, hein. On dit on passe du vous au tu parce qu'on ne sait pas trop. Alors juste, la première chose, c'est effectivement l'essentiel, hein, de là où je voulais en venir, c'est effectivement, comme il y a toute cette variabilité, comme il y a tout ça, lorsque on dit ah, incroyable, on a découvert quelque chose sur des souris, juste ça. Alors moi, j'ai essayé d'être très précautionneux, en disant voilà, on n'arrive pas à reproduire, là vous y allez franco. Donc bref, et au final, voilà, je vais, vous comprenez bien que j'abonde dans votre sens. Le grand public, lorsqu'il voit qu'on parle de quelque chose qui a été mené sur des souris, il doit juste se dire que la probabilité que ça le concerne et que ça débouche sur quelque chose qui le concerne, elle est très faible, elle est très très faible. Et donc, ça va amener à pas mal de choses. Là, il y a une publication qui date il n'y a pas si longtemps. C'est des chercheurs de Bordeaux qui ont montré que les journalistes avaient tendance à parler justement de beaucoup de types de recherches. Et que quand on regardait, il y en avait... alors, encore une fois, je n'ai pas le détail des marges d'erreur, mais en gros, il y a une étude sur deux dont ils parlent. Qui n'est pas reproduite par la suite, qui donne des résultats opposés plus tard lorsqu'on fait finalement une méta-analyse, une synthèse de toutes les connaissances. Donc il y a l'étude initiale, puis lorsqu'elle est répliquée, etc. Au final, au terme de tout un travail de recherche, l'annonce initiale, très positive, elle est infirmée par toutes les tentatives de réplication et par tout l'écosystème dont on parlait tout à l'heure. Alors, ça, c'est donc vraiment se dire que la plupart de ce que vous lisez il n'est pas faux, mais souvent on s'emballe. On s'emballe. Mmh. Alors, la question c'est qui est-ce qui fait qu'on s'emballe ? Ça, c'est un autre truc. Mmh. Mais juste, j'aimerais revenir sur une dernière chose. C'est ce que vous avez dit sur le fait que voilà, les sciences produisent des connaissances provisoires. Il faut faire quand même attention à ça parce que ça peut être interprété de plein de façons en général. Mmh. Et la chose. Moi, j'ai tendance à dire, c'est que voilà, pendant des années, on couchait les bébés sur le ventre. On s'est aperçu que c'était une mauvaise chose. Il fallait mieux les coucher sur le dos pour réduire le
risque de mort subite.
Le risque de mort subite. Maintenant, on a acquis cette connaissance. Et en termes de réduction des morts subites, ne vous attendez pas à ce qu'un jour, on vous annonce le contraire. Aujourd'hui, on est arrivé à un niveau de connaissance qui valide. Alors peut-être qu'on va vous dire, par contre, il y a d'autres pathologies qui vont être... Si on parle de mort subite... aujourd'hui, cette information, elle est confirmée. Elle ne va pas y avoir une révolution qui va vous dire « Ah, mais finalement, pour limiter la mort, c'est très, très, très probable. » De même que se laver les mains pour préparer un accouchement, enfin, pour réaliser un accouchement, on sait aujourd'hui que c'est pas idiot. Ça a été un changement complètement... Enfin, un changement conceptuel. Et alors, ça, on risque pas vraiment de revenir dessus. Ouais. Par contre, il y a effectivement beaucoup d'autres choses sur lesquelles les modèles avancent. Mais il ne faut pas avoir l'idée que la science ne cesse de faire table rase du passé.
C'est une très, très bonne remarque.
Oui, une remarque qui est importante.
C'est très important de notre point de vue également, dans le cadre de cette émission notamment, c'est d'essayer de montrer effectivement qu'il y a des pôles de stabilité extrêmement importants et que c'est le savoir le plus consolidé, le plus vérifié, le plus corroboré, enfin on peut employer tout un tas de termes, mais que comme tous les savoirs et comme toutes les productions humaines, il y a des zones plus faillibles, plus transitoires, plus provisoires, etc. Et qu'évidemment, non, je le dis parce que dans nos milieux, il y a des pôles de scepticisme intégraux, voire intégristes, qui font que tout est remis en cause en permanence, y compris plein de résultats de la science. Et évidemment, notre propos est d'essayer de montrer à quel point c'est une idée absurde, sans basculer dans l'excès inverse d'une science qui serait une certitude absolue et permanente.
Bien sûr, mais c'est pas du tout ça non plus.
Et dès lors qu'elle serait... promu par tel ou tel grand nom de la dite science.
Voilà, c'est ça. Mais il y a deux choses à mettre en avant.
Oratoire, tout à fait, mais voilà. Nécessaire, mais ça va de soi.
Il y a deux choses à mettre en avant là-dedans. C'est qu'il y a deux choses. Il faut que le public comprenne comment est-ce qu'on arrive à ces connaissances. C'est quoi la méthode qui a permis d'arriver à ces connaissances. Si c'est une méthode un peu légère, il a probablement de bonnes raisons d'être méfiant et réticent. Si la méthode est solide et que elle n'a pas été enfin, la méthode, elle peut être solide, mais il y a beaucoup de critères pour arriver à une connaissance. Voilà, on s'est aperçu qu'effectivement, d'un côté, eh bien, les mêmes causes avaient toujours les mêmes effets, qu'il y a une plausibilité biologique très forte. Et ainsi. Aujourd'hui, on sait des choses sur le lien voilà, entre... Ah bah tiens, je reparle du cancer. Entre tabagisme et cancer, décidément, il est avec moi. J'espère qu'il n'est pas trop près de moi. Mais voilà, on est arrivé à un niveau de certitude qui s'est accumulé avec le temps. Et ce sont les deux extrémités de la connaissance. S'initier aux méthodes et savoir dans quel écosystème se trouve la nouvelle qui nous est annoncée, c'est indispensable.
J'aimerais qu'on aborde, après cette très longue discussion et passionnante sur les méthodes et sur les limites à apporter à l'information scientifique, justement, j'aimerais qu'on fasse qu'on s'arrête sur un élément dont tu parles sur le blog Curiologie, qui est cette notion de mésinformation. Ce qui n'est pas très très loin de ce qu'on vient d'aborder, mais oui. Quand même, qu'on s'y arrête un petit peu. Et je vais commencer par donner, si tu le permets, un exemple qui tourne encore une fois autour de la pathologie du cancer. Il semblerait que
on est sponsorisé en fait.
C'est très à la mode. Alors, tu cites un résultat donné par l'INSERM, quand même un organisme officiel, l'Institut national de recherche médicale et épidémiologique. Donc, voilà.
Le
communiqué de presse de l'INSERM, il annonce comme ça, de but en blanc et de manière extrêmement précise, 39,1% des cancers du sein sont imputables au comportement, aux manières de vivre. Voilà. Alors, je te laisse la parole parce que tu as développé cette...
Ah, mais ouais, mais vous avez lancé le mot mésinformation avant, mais bah, tant pis, justement, il va nous servir, le cas va nous servir à illustrer. Alors, naïvement, je tombe sur cette information, je fais, bah, tiens, c'est intéressant. Et plus précisément, cette précision, comment est-ce qu'on arrive à ce niveau de certitude parce que quand on fait un sondage, là, on est en avril 2017, hein, pour ceux qui écoutent la rediff. Donc là, on est en plein, on est en ambiance sondage en ce moment. Donc quand on fait un sondage auprès de 10 personnes, ça ne va pas être très représentatif de ce que pense l'ensemble de la population. Même pour quelque chose d'aussi simple, est-ce que vous êtes un garçon ou une fille ? Imaginons que ça soit 50-50 dans la population. Alors, c'est peut-être pas exactement ça. On va faire une petite théorie. On va simplifier. 50% de la population, on prend les personnes qu'on croise dans la rue, alors pas au sortir d'une caserne militaire.
Quoique maintenant, l'armée...
Mais pas assez, donc ça biaiserait. Oui. Ça, je veux dire,
pas au sortir d'une maternité non plus.
Ou d'une maternité, voilà. Donc on serait plus dans des 50... On prend dans un espace où tout le monde est mélangé, c'est la fête. Eh bien, on a à peu près 95% de chances que les personnes qu'on rencontre, bah, ils soient d'un seul des deux sexes. Par exemple, on a entre 2 et 8 femmes, et il y a 95% de chances qu'il y a entre 2 et 8 femmes dans les 10 premières personnes qu'on va rencontrer. Alors ça peut être 5, mais ce n'est pas forcément pile la moitié. Il y a une marge d'erreur. C'est plus ou moins, voilà, c'est 5 plus ou moins 3, on a 95% de chances d'avoir ça. Alors si on prend 100 personnes, bah, ça réduit un petit peu cette incertitude. Si on prend 1000 personnes, les 1000 personnes que je vais rencontrer, bah, là la marge d'erreur, elle est beaucoup plus faible.
Et on va se rapprocher
du 500 idéal qui correspondra à la population totale française.
Du 50-50.
On va être autour de, genre, je vous dis ça de tête, mais avec 1000 personnes, quelque chose comme 536 femmes ou 536 hommes qu'on va rencontrer. Si on refait l'expérience 1000 fois, 1 million de fois, alors il faudra du temps à perdre. Hein. Mais et bien 95 fois sur 100, on aura 536, enfin moins de 536 hommes, moins de 536 femmes qu'on va rencontrer. Donc ça, c'est quand on fait un sondage sur 1000 personnes. On dit que il y a à peu près une marge d'erreur de 3% sur le résultat qu'on obtient. Si on fait un sondage sur 1000 personnes sur est-ce que vous votez au second tour pour un tel ou une telle, puisqu'on est parti là-dessus, ou une telle, eh bien, si on arrive à des résultats de type 51-49 et que le sondage a été mené sur 1000 personnes, vu que la marge d'erreur est autour de 3, en fait, ça veut juste dire qu'on ne sait pas du tout qui va gagner. Par contre, si on a quelque chose comme 60-40 avec cette marge d'erreur de 3, cette incertitude qui pourrait être plus ou moins 3 dans les résultats, là, on serait plus fondé à le croire. Alors, je me suis posé la question.
C'est étonnant, d'ailleurs, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est étonnant parce que les instituts de sondage, lorsqu'ils publient leurs résultats, on nous donne jamais la marge d'erreur.
Alors, l'institut de sondage le précise.
Mais c'est le journaliste qui
le
précise.
Alors, pas partout. Il y a des journaux qui le font, et de plus en plus.
Pas dans les médias audiovisuels.
Pas dans les médias audiovisuels, sur les supports, sur le web, il y a même des très belles infographies interactives qui vous permettent d'avoir les résultats avec ou sans marge d'erreur. Il y a des choses qui se développent sur certains sites qui commencent à intégrer ça comme quelque chose d'essentiel et qui essayent de faire beaucoup de pédagogie autour de ça. Ça devrait exister en science. Ce qui nous ramène à notre étude de l'INSERM. Et je me suis dit, ce chiffre, il est fantastique, il est merveilleux, à la virgule près, à la première décimale, ils ont dû en prendre un certain nombre de femmes. Et puis toutes les incertitudes ont dû être gommées pour arriver à cette virgule. Eh bien, la marge d'erreur associée à ce 39, je ne sais plus combien, elle était de plus de 70%, plus de 80%. C'est hallucinant, c'est-à-dire que de mémoire, les résultats, c'était la contribution de nos comportements à notre risque de cancer, c'était entre moins 70 et plus 95. C'est-à-dire que peut-être que c'était protecteur, allez-y, fumez, il n'y a pas de problème. Peut-être que c'était très, très, très grave. Donc peut-être que c'était prépondérant ou peut-être que ça ne l'était pas. Et la communication de l'INSERM disait, il y a quelque chose qui est prépondérant. Ce sont tout ce qui est non comportemental. Tout ça, c'est de mémoire. Les liens sont facilement...
Oui, c'est sur le site.
Et juste d'affirmer, il y a quelque chose de prépondérant et quelque chose qui ne l'est pas à partir de ces résultats, c'était aberrant. Et c'est bien le service de communication de l'INSERM, et par la bouche de quelqu'un d'assez éminent à l'INSERM qui était interrogé, qui a transmis ça. Et ça nous renvoie à une étude qui date de de fin 2014 qui soulignait que finalement, c'était sur des études britanniques, qui disait qu'il y avait entre 33 et 46% des communiqués de presse émanant d'institutions scientifiques au Royaume-Uni qui contenaient un certain nombre d'erreurs, des préconisations de changement d'habitude injustifiées au regard de l'étude d'origine, ou qui exagéraient des liens de cause à effet. Ça, c'était environ dans 30% des cas, que à peu près la même proportion de communiqués extrapolaient à l'homme des observations qui avaient été faites sur le modèle animal. Et ça montrait qu'en fait, ce sont essentiellement les services de communication de ces grands instituts, alors là, c'était, même si c'est des instituts publics, hein, les choses sont les mêmes, et que finalement, les journalistes n'étaient pas là, eux, très, très, ils ne se compliquaient pas vraiment la vie, ils ne rajoutaient pas beaucoup de distorsions. Les distorsions qui venaient après, les distorsions d'origine purement journalistique, les exagérations, etc., ça arrivait dans 10-15% des cas, mais le gros de la déformation, de l'exagération, ça venait de la production de l'Institut. Alors c'est là où on arrive à la notion de mésinformation.
Tout à fait. Ouais. J'aimerais que tu nous expliques bien le distinguo que tu fais entre mésinformation et désinformation.
Alors, en fait, il est assez simple. La désinformation, basiquement, c'est produire une information sciemment fausse et la faire circuler, ou espérer qu'elle circule, et dans le but que cette fausse information, cette information complètement déformée, ou que des informations qui sont, enfin des mensonges qui sont mêlés à la réalité, voilà, c'est un but de, on va dire, de propagande, ou alors ça peut être de la désinformation dans le but de gagner de l'argent, ou de modifier des opinions politiques. Là, bah, c'est de la désinformation, c'est quelque chose de vraiment volontaire, conscient, dans un but de manipulation. La mésinformation, c'est pas du tout ça. La mésinformation, c'est, il y a une information qui part et qui est relayée et qui est mal transmise, qui est déformée ou qui n'est pas assez vérifiée, et c'est le laxisme dans la vérification, on va dire, les libertés qu'on a pris même très en amont avec les méthodes, les libertés qu'on a pris très en amont à oublier de mettre des précautions oratoires, les libertés qu'on a pris en ne relayant pas les précautions oratoires, il y avait du conditionnel, bon, il est passé où, il est plus là. Et puis petit à petit, l'information qui arrive au final, elle est fausse, mais elle n'est pas volontairement fausse, c'est juste, on va dire, un enchaînement de choses qui peuvent être dues à de l'incompétence, on peut le dire comme ça, ou un manque de formation, un manque de vigilance, parce que peut-être que la compétence première devrait être cette vigilance, mais parfois ce sont des pertes même qui peuvent être totalement involontaires, ça peut être une coquille à l'impression, ça peut être, moi il m'est arrivé d'écrire des articles, de les mettre, préparer à les mettre en ligne, d'appuyer sur enregistrer, et puis un bug, il y a le dernier paragraphe qui se trouvait dans un dernier paragraphe qui s'est pas pris, alors ça modifiait un petit peu l'information que je voulais transmettre. Quand on est au bout de la chaîne, on ne sait pas si c'est une information qui a été super validée, qui est top du top, la méga classe, ou s'il y a eu quelques distorsions qui fait qu'au finalement on est face à une situation de mésinformation. Et moi, ma position, c'est de dire que si l'information qu'on... De toute façon, on ne peut pas tout vérifier. On ne peut pas douter de tout. On nous dit des choses tout le temps. On reçoit chaque jour des centaines et des centaines et des centaines d'informations sur le menu de la cantine, sur ceci, sur ce. On ne va pas commencer à mettre tout en doute. On n'a pas le temps. On a autre chose à faire. Et puis surtout, on deviendrait complètement barjo à faire ça. Oui. Mais il y a quand même des situations dans lesquelles c'est pertinent de prendre un tout petit peu de recul. Est-ce que l'information qu'on nous donne peut changer de près ou de loin notre vision du monde? Si c'est notre voisin qui nous dit « Ah, ma belle-mère, elle a un labrador. » En fait, c'est un Terre-Neuve. Bon. « Ah, mes informations !» Non, en fait, on s'en fiche que ce soit un labrador. Ça. À la limite, on ne la verra jamais. Et puis, pourquoi il nous parle de ça? Par contre, s'il nous dit « Ah, ma belle-mère, elle a un labrador qui parle. » Alors là, ça bouleverse complètement votre vision du monde. Vous voyez un chien qui parle, etc. Et là, vous dites, s'il dit vrai, mais vous vous rendez compte, le monde entier, alors vous... Dites, mais comment c'est possible un pharynx qui permet de vocaliser? Qu'est-ce que tu entends par parler? Il aboie? Ah, la langue des chiens, bon, ok, de toute façon. Et puis ça peut être, non, il parle vraiment. Bah, là, vous devez vous dire, c'est tellement extraordinaire ce qu'il me dit que je dois attendre des preuves un peu plus solides avant d'y croire béatement. Je dois peut-être lui demander de m'apporter le chien, puis vérifier qu'il n'y a pas un micro dans sa gueule ou que le bonhomme n'est pas ventriloque, voyez, avant de changer ma vision du monde. Quand on reçoit une information qui va nous dire pour guérir telle maladie, mettez-vous des citrons dans le fondement. Oh, génial, ça va guérir ma maladie, super. Ça change quand même votre vie, puis ça pique un peu. Hein. Donc, avant de vous lancer là-dedans, il faut voir d'où elle vient, cette information. C'est ça, en fait. Peut-être que vous n'êtes pas face à une situation de désinformation, mais il faut la prendre comme un a priori prudent, plus ça risque de changer votre vie. On disait avant l'émission, et si on annonce qu'il y a des petits zones vertes sur la Lune, c'est important d'aller vérifier si on vous balance pas des cracks, s'ils ont des lasers et qu'ils vous attaquent. Par contre, si on vous dit oui, il y a peut-être éventuellement de la vie lointaine, des chercheurs supposent que sur une étoile à 40 années-lumière, ça ne vous concerne pas trop, vous pouvez dire bon, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. De toute façon, c'est typiquement une information que vous allez oublier. C'est à partir de là que vous pouvez commencer à exercer votre esprit critique de façon active, intelligente. Voilà.
Tu viens d'illustrer un des fondamentaux dont tu parles sur la curiologie, un des fondamentaux de la curiologie, du doute raisonnable, de la zététique qu'on va développer un petit peu après.
Oui, tout ça c'est bonnet blanc et blanc bonnet, voilà. C'est des synonymes. Curiologie, c'est un mot qui est étymologiquement un peu bizarre, parce qu'il y a un mot latin, un mot grec, mais sauf que j'aurais dit thomasologie pour faire grec, personne n'aurait compris. Curiologie, on voit quand même intuitivement ce que ça veut dire, zététique, ça peut faire peur. Il parle de diététique ? Non, de zététique. Il y a des grandes discussions parmi les gens qui emploient le mot de zététique. Est-ce qu'on doit l'employer ou pas ? Dans quel contexte ? Curiologie, c'est pratique, c'est pas cher. On voit tout de suite, c'est quelque chose qui a un lien avec la curiosité. Et ce qui est pratique, c'est que c'est autant l'art, la science de s'intéresser aux choses curieuses que de rendre les choses curieuses, déguiser la curiosité, tout ça est compris dans le mot. Voilà, c'est un mot qui normalement, le mot existe, mais en vrai, il ne désigne pas du tout ça. Ça désigne l'étude de certains hiéroglyphes, je crois. Moi, je me le suis approprié et j'en ai fait quelque chose qui désigne bien ce qui sonne. Voilà, il sonne désigner l'étude de la curiosité, comment être curieux et tout ça. Donc, voilà.
Un des fondamentaux, donc,
un des fondamentaux que tu viens de l'esprit
critique, que tu viens d'illustrer, c'est une affirmation extraordinaire nécessite une preuve extraordinaire. Donc, si le chien de la belle-mère du voisin parle, il faut qu'il y ait une information quand même assez extraordinaire. Il nous faut des preuves plus que solides.
C'est un grand classique de l'esprit critique et de la zététique et tout ça. Je ne suis pas l'inventeur.
Bien sûr.
Juste un exemple. Alors, j'essaye sur le blog de les décrire dans le moins de mots possible pour éventuellement pouvoir sortir cette page comme une carte. Vous êtes sur Internet, quelqu'un vous balance quelque chose d'un peu énorme. Il veut que vous le croyiez sur parole. L'idée, c'est qu'il puisse lire en trois lignes. Ce qui est parfois difficile à formaliser. Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette phrase, ce joker tout fait, attends, une affirmation extraordinaire, une preuve plus extraordinaire. Ça devient un mantra. J'essaie juste de résumer avec quelques exemples propres et clairs. C'est effectivement ces mantras qui sont extrêmement utiles à un journaliste, à un citoyen qui essaye d'exercer sa citoyenneté de façon responsable.
Parce que l'intérêt de cette démarche est qu'elle n'est pas uniquement réservée au domaine des sciences.
Non, moi je me plie, c'est mon boulot, donc mais évidemment ça s'applique à tout après.
Bien sûr, là on est en pleine période pour ceux qui habiteraient sur Mars par exemple et qui seraient de passage sur Terre dans les semaines qui viennent. On est en pleine période électorale ici en France et donc on a des à longueur de journée sur tous les médias écrits, audiovisuels, internet, des tas d'informations qui sont balancées, de slogans politiques, de termes dont on ne sait plus très bien ce qu'ils veulent dire. Et on est confronté à toutes ces infos. On a rarement l'occasion, enfin moi pour ma part, je n'ai pas eu tellement l'occasion, mais on a rarement l'occasion d'entendre un journaliste demander à l'homme politique ou la femme politique devant lequel il se trouve, d'affirmer ses propos sur des bases rigoureuses, précises et concrètes. Pourquoi on ne voit pas ça ?
Pourquoi est-ce qu'on ne balance pas systématiquement ? Quelles sont vos sources ? Quelles sont vos sources ?
Sur quelles sont vos données ? Sur quoi vous appuyez-vous pour prétendre
vos sources et méthodes.
Oui, vos sources et méthodes, justement. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas fait. Peut-être que le temps qu'on donne, enfin, moi, quand j'allume la radio au petit matin, on pose une douzaine de questions d'actualité en moins de 5 minutes à l'interviewé. Il est censé répondre tac au tac, etc. Peut-être que il y a plusieurs choses qui doivent être mises en place. De toute façon, même si la personne donnait des sources, elle ne serait pas forcément valide. L'exigence de sources, comme on dit, hein, 90% des chiffres qui sont balancés sont faux, y compris celui que je viens de vous donner. Je ne sais pas d'où sort cette information, là, que je viens de l'inventer, ce chiffre. C'est facile, hein, on peut très bien inventer une source complètement bidon ou faire dire ce qu'on veut à une source. Il y a régulièrement à la télévision, même dans des. Il y avait une émission, c'était quoi, Cache Investigation avec Élise Lucet, qui avait donné beaucoup d'informations sur les aliments qui contiennent des pesticides au-delà des doses recommandées. Bon, voilà, elle balançait des sources, sauf que quand on regardait le détail, les sources étaient comprises totalement à l'envers. Les chiffres qui étaient balancés étaient bien présents dans l'étude, mais les mots n'étaient pas en face du bon chiffre. Donc,
l'interprétation était tout à fait biaisée.
C'était au-delà de ça, c'est juste qu'ils ont dit quelque chose qui n'était pas là, quoi. Voilà. Donc, ils citaient une source.
Mes informations ou des informations dans ce cas-là?
Je suis quelqu'un qui voit le bien partout. Il faut pas partir du principe que les gens vous mentent sciemment. Vous pouvez l'avoir dans un coin de votre tête, mais c'est pas la question en fait. On peut se tromper de bonne foi. Donc si on commence à attaquer la bonne foi des gens, on les braque, etc. Non, moi je veux dire, écoutez, il est de bonne foi, c'est juste qu'il sait pas lire, quoi. Il a pas fait relire son affirmation par les auteurs de l'étude initiale. Le journaliste qui a fait cette émission et qui a fait ce segment de l'émission, quand il a préparé son compte rendu de ses chiffres sur les pesticides, on ne se prononce pas sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, les pesticides. Je parle juste des chiffres, là. Quand il a écrit ces chiffres-là, il aurait juste pu faire relire par les auteurs. C'était une petite précaution, ça demandait un retour de mail. Il ne l'a pas fait. Et ben, ce manque de précaution-là, ça a produit cette situation de mésinformation. Alors après, s'il il a fait ça,
sciemment,
ben là, on est dans de la désinformation, mais on ne peut pas le prouver, et à la limite, pour notre propos, ça ne change rien. Oui. La question, c'est nous, qui sommes derrière, comment on le vérifie? Le journaliste qui interviewerait ce journaliste, on rajoute un maillon à la chaîne de l'information. S'il lui demande c'est quoi tes sources et quelles sont les méthodes, il peut dire voilà ma source, tu peux aller vérifier. Le journaliste qui interviewe le journaliste, il vérifiera-t-il? J'en doute. Et il va le croire sur parole. Et puis il dira en plus il y a des méthodes, ils ont utilisé des dosages, des spectromètres de masse pour mesurer. Ok, il donne toute la méthode, mais les chiffres sont faux. Il y a un moment où l'information, elle a été déformée, elle s'est perdue. Donc, en fait, quand j'étais au Cambodge, on revient dans mon passé, j'étais tombé sur une initiative qui était extrêmement intéressante. Alors, je vous la fais de mémoire, donc peut-être qu'avec le temps, ma mémoire s'est déformée. Mais voilà ce dont j'ai souvenir. C'était une initiative qui s'appelait les COPSEL Meetings, les réunions. Alors, COPSEL, c'est un acronyme de quelque chose. On mettait autour de la table des hommes politiques qui débattaient entre eux. Alors, pas forcément dans le but de faire changer d'avis. Soyons clairs, un débat, ce n'est pas destiné à faire changer d'avis les gens autour de la table. C'est au mieux destiné à exposer ses idées et plus probablement pour faire changer les avis des gens qui vous écoutent. On n'a jamais vu dans un débat, y compris télévisé, quelqu'un qui dit « Ah bon, ah oui, vous avez raison, ah je retire ma candidature. » Non, ça ne s'arrive pas. Donc, ces COPSEL meetings, c'était donc des réunions dans lesquelles les gens parlaient. Et on notait toutes leurs affirmations, toutes leurs sources, etc. Et il y avait des gens qui étaient chargés de vérifier tout ce qui avait été dit. Et la réunion suivante, se faisait sur la base de tout ce qui avait été vérifié. S'il y avait jamais des affirmations sur le taux de chômage, sur le taux de criminalité qui étaient fausses, eh bien, on devait, autour de la table, convenir que quelque chose qui avait été dit, mais peut-être de bonne foi, parce que balancer des chiffres de tête, on le fait aussi depuis tout à l'heure, peut-être qu'il y a une erreur par-ci, une erreur par-là, eh bien, l'idée, c'était de continuer à chaque fois sur des bases qui ont été collectivement validées. Et cette initiative était là pour apaiser le débat. Et lorsque, au final, les réunions étaient rendues publiques, ça prenait beaucoup de temps. Hein. Lorsque les réunions étaient rendues publiques, on avait quelque chose qui n'était pas basé sur de la mauvaise foi et sur des faits truqués.
Ça demande quand même un travail, une organisation, et puis une bonne volonté de la part des participants de à ces débats.
Donc si on mettait ça en place, ça serait merveilleux. Ça demande voilà, une autre organisation, une autre façon de faire du journalisme. Une autre... La question c'est voilà, pourquoi est-ce que ces débats ou ces mini-interviews le matin ont lieu? Pourquoi est-ce qu'on interviewe les gens sur tant de questions différentes, sur l'actualité, sur le programme de la personne, enfin sur du parti etc. Il faudrait qu'on se concentre sur quelque chose et qu'on travaille. Et puis quand deux personnes ne sont pas d'accord, souvent on dit bah écoutez, on vérifiera. Mais il faut prendre date, il faut les faire revenir le lendemain. Il faut s'amuser à ça. Ça serait vachement intéressant que ce journalisme politique ressemble à ça.
Juste pour la plaisanterie, mais en matière d'illustration, si les médecins avaient ce genre d'attitude et de comportement. Les hôpitaux seront des morgues permanentes. C'est-à-dire que là, on parle à la fois de déontologie et de compétences et de mise en œuvre justement d'outils professionnels qui ne sont soit pas maîtrisés par les gens dont on parle, soit pas mis en œuvre pour des raisons diverses, de temps, d'idéologie sous-jacente, que sais-je, etc. Donc j'estime qu'on a un vrai problème avec les médias de masse, notamment audiovisuels, où il n'y a quasiment jamais les mises en œuvre de ces méthodologies de vérification contre vérification et de retour à l'envoyeur de celui qui a dit, qui a fait une mésinformation ou une désinformation, puisque on comprend bien la différence, mais on ne sait pas toujours la faire dans le feu de l'action. C'est pour ça que je prends un peu l'analogie... un peu rigolote avec la médecine, si les médecins travaillaient comme ces journalistes travaillent, il n'y aurait quasiment plus un seul patient vivant. Je pense que c'est
Il y a plein de maladies qui guérissent spontanément.
Oui, mais alors c'est pas de leur fait là.
Pas de leur fait.
Non, c'est juste pour illustrer le fait que moi j'estime que la critique des médias elle est absolument nécessaire hein, d'un point de vue citoyen et qu'elle est très mal barré quoi dans actuellement. Alors, sauf dans des milieux relativement concernés, avisés, etc. Mais en termes de masse, c'est très très peu de gens et ça touche très peu de gens.
Alors là, il y a quelque chose de très important. J'insiste vraiment, là où on parle des médias depuis tout à l'heure, il y a énormément de journalistes qui font un travail admirable. Je côtoie des journalistes scientifiques qui méritent vraiment ce nom et à qui je pense que au niveau de la culture de la culture scientifique qu'ils ont derrière et qui leur permet d'avancer sur des bases solides, qui leur permet de travailler vite et excellemment bien, voilà, moi je leur arrive probablement pas à la cheville. Il y en a beaucoup, mais
on les voit pas.
Mais bon, ils existent dans certains médias. Alors, oui. Parfois, ils sont seuls dans leur rédaction. Parfois, ils sont 10 dans des rédactions. Parfois, c'est des pigistes à droite à gauche. Donc, ils sont nombreux. Ils existent. Et faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Par contre, il existe aussi, toujours en termes de science, beaucoup de journalistes scientifiques, en tout cas qui se définissent comme journalistes scientifiques parce qu'ils parlent de science. Ou plutôt, parce qu'ils parlent de l'idée de ce qu'ils font des sciences. Et alors, pour moi, ça, c'est catastrophique. Enfin, voilà, c'est catastrophique. Un journaliste scientifique, c'est pas quelqu'un qui arrive, ou un journaliste qui parle d'écologie, voilà, eh bien, pourquoi est-ce qu'on lui a donné ce boulot? On lui a donné ce boulot parce que, t'es un peu geek, alors tu vas parler des sciences. Tu manges bio, alors on va te faire parler d'écologie. T'adorais Géotrouve-tout quand t'étais petit. Tu lisais Picsou Magazine, mais Géotrouve-tout, t'es journaliste scientifique, alors. Non, mais parfois, quand on discute avec des gens qui ont cette étiquette, ou qui se donnent cette étiquette, alors ils sont peut-être pas une majorité à être comme ça, mais il y a certaines personnes, dans certaines rédactions, qui ont même une petite formation scientifique, mais qui n'ont pas d'idée de comment est produit le savoir. Quand je parle de marge, ou même parfois on parle de médecins journalistes, des médecins journalistes qui font du journalisme sur la base de ce dont ils se souviennent. Ils ont fait écrire des articles sur, voilà, je me souviens dans mes études, on me disait que telle chose se faisait, ou que tel médicament était efficace, ou ceci ou cela, mais qui ne vont pas vérifier l'état actuel des connaissances scientifiques, qui ne sont pas à jour justement sur ces histoires de réplication, sur toutes les controverses qu'il y a. Et on se trouve face à des gens qui, voilà, n'ayant pas une idée de la façon dont est produite une connaissance scientifique, dont se cimente un savoir et dont un savoir devient de plus en plus, plausible, probable, on va dire scientifiquement vrai, même si c'est justement pas une vérité absolue comme vous le disiez tout à l'heure. Comme on est de plus en plus certain que c'est très probablement la bonne explication et qu'on a toutes les bonnes raisons d'agir de cette façon et de prendre ces décisions. Si on ne sait pas comment ça se passe, et bien on se retrouve avec des gens qui disent « Ah là là, on a réussi à soigner une souris sur 50 avec un antalgique, donc on a trouvé le vaccin contre... » Enfin, il y a des gens qui font des sauts phénoménaux. Si il y avait une formation qui intégrait des éléments voilà, de culture scientifique et de méthodologie scientifique auprès des journalistes, et bien, voilà, si leur détecteur de foutaise était un peu plus entraîné, et qu'ils avaient le réflexe de l'utiliser à tout bout de champ, eh ben, alors ça va prendre un tout petit peu plus de temps, peut-être, pour écrire un article, mais ils produiraient des choses qui sont beaucoup plus solides. Je donne des cours à l'université auprès de futurs journalistes, je les piège, je crée des canulars, je crée des mises en scène pour voilà, les mettre un petit peu en défaut, et une des choses que je leur dis, quand vous lisez l'information sur Internet, dites-vous que c'est peut-être moi qui l'ai écrit. Et là, je les vois se découvrir. Mais là, on va tout devoir tout vérifier. Bah oui, c'est votre métier. Dites-vous que tous les canulars que je vous ai donnés cette année, bah, peut-être que le prochain que vous allez lire, eh bien, c'est moi qui suis derrière un pseudonyme. Je leur fais peur comme ça. Mais c'est ça qu'il faut se dire. Il faudrait se dire que c'est le 1er avril tous les jours. Vous voyez ?
Oui, justement, cette idée du canular qui permet à la fois de débusquer une information fausse et qui permet de donner aux gens la conscience en fait de l'erreur qu'ils peuvent commettre en croyant ce qu'on leur dit ou ce qu'ils lisent.
Je travaille beaucoup sur cette question des canulars pédagogiques. Un canular pédagogique, il a pas pour but de tromper. Mmh. Et il doit même contenir en lui-même
les éléments
de sa réputation. Oui. Parce que si on peut produire un poisson d'avril très bien fait, s'il ne contient pas tous les éléments qui vont prouver, en prenant un tout petit peu de recul, que c'est une vaste blague, ben la chose peut avoir une vie propre après, et il peut totalement nous échapper. Donc, voilà, producteur de bonnes blagues, inventeur de canulars, voilà, si votre intention n'est pas de propager un mensonge, intégrez dans votre blague tous les éléments qui vont permettre de la réfuter. Et voilà, quand on lit quelque chose le 1er avril, même un truc vrai, enfin, qui s'avérera vérifié, valide après, on a toujours un petit doute. On dit, c'est cette démarche d'esprit qui devrait être la nôtre. Tous les jours de l'année. Ouais. Alors, c'est pour ça que je fais partie de ceux qui disent que le 1er avril, c'est la journée mondiale de l'esprit critique. Et puis, ce qu'on dit le 2 avril à tout le monde, c'est « Ah, c'est cool, aujourd'hui, tout est de nouveau vrai sur Internet, tout est de nouveau vrai sur les gens. » Ben non. Alors, évidemment, on parle après. On va dire un canular, c'est une désinformation à vocation humoristique. Mmh. Voilà. Après, voilà. Maintenant, dites-vous que, ok, le 2 avril, il n'y a plus de canular, enfin de désinformation à vocation humoristique, que vous êtes probablement uniquement face à des mésinformations en fait, il n'y a pas de vocation, c'est juste à vocation informative, malheureusement. Mmh. Et que si ça vous importe, si ce que vous lisez là, à ce moment-là, vous avez envie d'en parler un peu plus tard, vous avez envie de le liker, vous avez envie de le partager, vous avez envie ce soir au bar de dire « Hey, j'ai appris un truc énorme aujourd'hui !» Eh bien, avant de propager ça, vérifiez. Alors, on revient, vous avez une Nikox, spécialiste des rumeurs, on est exactement là-dedans, mais les rumeurs, elles peuvent se trouver dans la littérature médicale. Il y a des rumeurs médicales qui circulent et qui façonnent nos imaginaires, des choses comme ça qui existent.
Pour conclure, avec dans les quelques minutes qui nous restent avant la fin de l'émission, j'aimerais que Florian, tu nous rappelles l'adresse de ton site.
Mm-hmm. Alors c'est curiologie.fr.
Curiologie.fr.
IE, hein, en curiologie en français, bien sûr.
Oui, c'est pas le curology.
Voilà. Parce que c'est .fr.
Voilà. Voyons. .fr. Là-dessus, on trouve tout un tas d'articles, des
Voilà, j'essaye autant que possible de mettre en ligne un dossier par mois sur une grosse question. Est-ce qu'il existe des pots à moustiques? L'été arrive, est-ce que c'est vrai? Avec la méthode qui est derrière, comment est-ce que les rhumatismes permettent vraiment de prévoir la météo? Et comment est-ce qu'on arrivait à trancher la question? Est-ce qu'on a réussi à trancher la question? Je vous invite à aller consulter le site. C'est un site sans pub, puisque voilà. Un site aussi où vous pouvez retrouver mes liens d'intérêt, je publie tous mes conflits d'intérêt. Alors, ça, j'en ai pas. Hein. Je note le nom de ma banque, le fait que je possède une part. Je pense que tous les journalistes devraient faire ça pour être au-dessus de tout soupçon. Parce qu'évidemment, si j'ai des actions chez Bayer, à tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, ou tout ce que j'écris, ça pourrait être dramatique. Oh là là, le médicament Bayer, c'est très 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 bien. Hein. Les journalistes, on ne sait pas pourquoi ils écrivent. Et alors peut-être qu'ils se disent, c'est bon, je suis au-dessus de tout ça, mais on ne sait pas à quel point on va avoir tendance à oublier le conditionnel. Vous trouvez, je me mets un peu à nu là-dessus, c'est que voilà, mes conflits d'intérêts sont minimaux, c'est aussi pour ça que je ne veux pas de pub, notamment parce que voilà, l'absence de publicité, enfin s'il y avait de la publicité, ça serait super hein, pour exercer son esprit critique en live tous les jours, mais c'est pas la démarche.
Il n'y a pas de publicité sur Radio Libertaire non plus.
Ouais, c'est pour ça aussi que je viens.
Mais par contre, on peut faire la publicité de Curieux.
C'est quelque chose qui ne contient pas de la pub.
Voilà. Y a aussi quelque chose de très intéressant, ce sont les rencontres zététiques. Tu en as dit un petit mot.
Je ne sais pas si j'en ai dit un petit
mot. Non, je me trompe. Tu n'en as pas dit un petit mot, mais c'est quand tu as parlé de la journée, mondiale de l'esprit critique. Il y a des rencontres parisiennes, on va dire.
Voilà, en fait, il y a beaucoup d'initiatives, il y a un certain nombre d'initiatives en France autour de la vulgarisation de l'esprit critique. Et il y a 2 ans, j'ai fait le constat en discutant avec Nick Hawkes, justement, qu'à Paris, c'était un peu le désert, et pas d'endroit pour se réunir et discuter d'esprit critique. Et donc, je me suis dit, tentons un truc. Je vais lancer sur les réseaux sociaux proposition de se réunir tous les mois dans un pub parisien, dans les sous-sols d'un pub parisien, pour mettre en culture ces questions d'esprit critique et de venir avec les choses qui nous ont surpris, les choses qui nous ont choqués dans l'actualité, mais aller au-delà. Par exemple, si l'un de nos proches semble être dans un mouvement sectaire, quelle est la bonne... Mettre voilà, en culture, de façon totalement informelle, on est chacun notre mini-conférencier si on a quelque chose à dire. On peut discuter en petits groupes. L'idée, voilà, c'est de proposer, alors c'est des groupes, c'est tous les mois à peu près, tous les deuxième mardi du mois, une trentaine de personnes s'inscrivent, ça demande une inscription. C'est gratuit, encore une fois. Et puis, on se met autour de la table, on discute. Ah, qu'est-ce que tu penses de ça, de ce traitement de l'information? Il y a beaucoup d'enseignants qui viennent pour essayer de trouver des astuces, des stratégies pédagogiques pour développer l'esprit critique, mais pas l'esprit... un scepticisme compulsif, justement, mais un scepticisme raisonnable et bien appliqué. Voilà. Sur quoi exercer notre esprit critique? Donc voilà, ça, c'est un événement que j'organise. Et puis, pour l'anecdote... Au moment où je lançais ça, d'autres gens ont initié d'autres événements de culture scientifique à Paris, de culture zététique, de culture sceptique, de culture curiologique à Paris. Et tous les troisièmes mercredis du mois, des gens avec qui je suis devenu de bons amis organisent des conférences dans des bars, dans des pubs, autour de l'esprit critique, avec des gens qui sont des gens qui ont travaillé sur ces sujets. Alors, Nicolas Gauvry, que vous avez reçu, est déjà intervenu dans ces événements. Et ça, voilà. Donc, finalement, on a une offre très complémentaire. Le deuxième mardi du mois, on se met ensemble, on discute, on refait le monde, on exerce notre esprit critique. Et puis, on va, le troisième mercredi du mois, prendre l'état des connaissances en termes d'esprit critique auprès de gens dont... Donc, c'est le métier vraiment de faire travailler.
Comment on peut s'inscrire à ces réunions? Alors,
pour ce qui est des rencontres que j'organise, il suffit d'aller sur curiologie.fr. Je fais l'annonce tous les mois. Donc, alors, s'il n'y a pas d'annonce, c'est que exceptionnellement, c'est annulé. Pour ce qui est de l'événement qui s'appelle Skeptics in the Pub, donc c'est une conférence informelle, eh bien là, c'est sur Facebook que ça se passe. Ils lancent des inscriptions, vous tapez Skeptics in the Pub, alors à Paris, mais il y en a dans beaucoup de villes, il y en a à Bruxelles, il y en a à Paris, ça existe désormais, donc renseignez-vous, il y a des occasions, et puis on se rencontrera là-bas.
Mais puis, il y a aussi deux ou trois ouvrages que tu conseilles dans ta petite curiothèque.
Petite curiothèque, c'est un projet. Hein. Je compte lister tous les livres qui m'ont nourri. Alors, les livres qui m'ont nourri en bien, ceux qui m'ont vraiment ouvert l'esprit critique, et puis ceux qui m'ont ouvert l'esprit critique par réaction des ouvrages que j'ai lus. Et j'étais convaincu que c'était vrai. Puis lorsque j'ai commencé à chercher, ils ont révolutionné ma vision du monde, m'apercevant que tout ce qui était imprimé n'était pas forcément vrai, qui m'ont fait prendre conscience que c'est pas parce que j'ai envie que ce soit vrai que ça l'est. C'est des choses toutes bêtes. Hein,
mais... C'est un des fondamentaux que tu développes, c'est admettre qu'on peut se faire berner.
Voilà, c'est peut-être même le plus fondamental de tous les fondamentaux. Mmh. C'est une leçon d'humilité. Quand vous allez voir un spectacle de prestidigitation, on voit des femmes coupées en deux, vous ne savez pas comment ça fait. Et en vrai, il y a un truc, je vous le dis comme ça au micro, il y a un truc. Et donc, à partir du moment où vous ne comprenez pas, mais pourtant vous le faites sous vos yeux, dites-vous que bah, peut-être que vous pouvez vous faire berner dans d'autres situations et que ce n'est pas grave. Mmh. On se fait tous berner des dizaines de fois quand vous étiez petit, éloignez les enfants, enfin, ou pas, à propos du Père Noël. Maintenant, vous savez s'il faut éloigner les enfants. Vous avez pris conscience un jour qu'il y avait un complot mondial pour se moquer de vous, pour vous emmener dans un imaginaire. Alors, ce n'est pas pour vous moquer de vous, pour vous emmener dans l'imaginaire ou pour... Peut-être pour vous moquer de vous aussi, en fait, je ne sais pas, à voir. Et ben moi, j'ai écrit un article justement sur Curiologie, sur pourquoi est-ce qu'il faut collaborer à cette conspiration mondiale. Parce que justement, lorsque un enfant découvre qu'un truc aussi incroyable peut être faux, et si vous vous en servez comme point de référence par la suite, c'est extrêmement instructif. Vous pouvez lui dire, attends, tu crois en ça, mais tu te souviens du Père Noël, tu croyais autant. Hein, comment est-ce que tu en es venu à douter du Père Noël? Alors, pourquoi est-ce que tu n'appliquerais pas ça aussi à cette chose dans laquelle tu crois tant? La petite souris, en fait. Trois petits points. Oh.
C'est, j'avais pas réfléchi jusqu'à maintenant à l'utilisation pédagogique du Père Noël dans l'esprit critique, mais effectivement, il peut avoir cette utilité-là.
Vous avez tout un article sur la procédure employée et sur les mots même employés avec votre enfant. Alors, c'est des propositions, hein. Puis vous pouvez en débattre dans les commentaires. Comment utiliser le Père Noël à des fins pédagogiques?
Curiologie.fr. Merci Florian.
Merci à vous.
Marc.
Merci beaucoup à vous deux.